Bonjour. Nous allons démarrer cette présentation qui porte sur les changements opérés en assistance médicale à la procréation lors de la révision de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Alors, je vais aborder les principaux thèmes de cette révision de la loi qui sont les demandeurs, notamment avec l'assistance médicale à procréation avec tiers donneur, les enfants du don et la préservation de fertilité pour raisons non médicales. Et j'aborderai ces questions qui font partie donc du vif du sujet après avoir fait un rappel sur l'assistance médicale à procréation. Alors, qu'est-ce qu'une AMP ? Eh bien, la définition de l'assistance médicale à procréation est inscrite dans la loi. Elle comprend donc toutes les pratiques cliniques et biologiques qui permettent la conception in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps humain, la conservation des gamètes. Alors, gamètes, c'est désigne les ovocytes et les spermatozoïdes. Conservation des tissus germinaux, c'est-à-dire des tissus ovariens, des tissus testiculaires, la conservation des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. En gros, ce sont les procédés qui permettent la procréation en dehors du processus naturel par l'intervention d'un tiers médical biologique. En France, 3,3% des enfants nés sont issus d'assistance médicale à procréation. Cela représente un enfant sur 28. Dans une classe, donc 28 enfants, un enfant est issu d'une assistance médicale à procréation. Alors, qu'est-ce qu'une insémination artificielle ? L'insémination artificielle consiste à déposer dans l'utérus les spermatozoïdes. Pour faire une insémination, il y a trois étapes. Première étape, l'étape de stimulation de l'ovulation, qui permet une optimisation de l'ovulation et une meilleure synchronisation de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Pour cela, on utilise des protocoles de stimulation possifolliculaire, c'est-à-dire on utilise de faibles doses de traitement hormonal de manière à obtenir un maximum de follicules à la surface des ovaires. Pourquoi maximum 2 ? Parce que plus vous avez de follicules matures, plus vous avez de risques de grossesse multiple. On s'arrête à 2 maximum pour qu'il n'y ait pas au-delà de grossesse jumellaire. Tous les traitements de stimulation de l'ovulation, quels qu'ils soient, doivent être surveillés par ce qu'on appelle un monitorage comprenant des échographies, des dosages hormonaux pour bien vérifier le nombre et la taille des follicules. Ensuite, le jour J, il va falloir préparer les spermatozoïdes dans un laboratoire autorisé et avec nos techniques de préparation du sperme au laboratoire, en fait, on ne fait que reproduire les étapes qui se passent dans le corps féminin. Et puis, troisièmement, l'insémination proprement dite, qui consiste à aller déposer cette solution de spermatozoïdes dépourvue de liquide séminal, comprenant que des spermatozoïdes mobiles et normaux, si possible, qui vont être donc déposé dans l'utérus. La fécondation in vitro. La fécondation in vitro se déroule en plusieurs étapes. Première étape, la stimulation des ovaires, toujours assortie du monitorage, c'est-à-dire du contrôle échographique et biologique du nombre de follicules obtenus. Et là, ce n'est pas deux follicules que l'on veut obtenir maximum. C'est une petite dizaine, voire quinzaine, tout en surveillant de manière à ce qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation ovarienne. Quand les ovaires sont prêts, deuxième étape, le recueil des ovocytes par ponction folliculaire au bloc opératoire, sous contrôle vaginal, sous anesthésie locale associée à une sédation. Au laboratoire, nous recherchons les ovocytes qui ne se voient que sous loupe. En parallèle, sont préparés les spermatozoïdes. Et enfin, une fois qu'on a les ovocytes et les spermatozoïdes, on va les mettre en contact de deux façons différentes. Soit on les met en contact par une simple mise en contact, en gros 50 000 spermatozoïdes par ovocyte, soit un ovocyte, un spermatozoïde, c'est la technique d'ICSI, d'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Donc on le fait à l'aide de micropipettes et vous avez, on voit très dans la pipette à peu près, pas tout à fait à la sortie de la pipette, vous avez un petit point qui correspond à la tête du spermatozoïde qui fait 5 micromètres de diamètre par rapport à l'ovocyte qui en fait 200. Deux jours après, nous observons la présence des embryons. C'est une étape cruciale pour les biologistes de la reproduction, puisqu'ils sont censés identifier l'embryon qui aura le plus fort potentiel implantatoire, qui pourra donner donc un enfant en bonne santé et un parrain si possible. Donc notre défi est grand. Nous avons différentes techniques pour cela. Et enfin, donc, ça nous permet donc d'identifier un, voire deux embryons maximum à transférer dans l'utérus lors d'un examen gynécologique simple. Enfin, les embryons non transférés seront congelés. C'est la huitième et dernière étape. Le transfert d'embryons. Le transfert d'embryons, ce sont des transferts d'embryons congelés préalablement lors d'une précédente fécondation in vitro que l'on va remettre dans l'utérus après avoir préparé l'utérus à le recevoir. Et on peut congeler à différents stades du développement embryonnaire. Stade J2, superbe embryon à 4 cellules. Stade J3, superbe embryon à 8 cellules. Et enfin, jusqu'à J5, J6, stade au-delà duquel l'embryon doit avoir un endomètre pour se développer, sinon il dégénère. C'est le stade dit de blastocyste. On peut donc décongeler à tous ces stades, décongeler et transférer ensuite dans l'utérus ces embryons. Ainsi, il est possible de faire des inséminations avec des spermatozoïdes du conjoint, c'est le cas le plus fréquent d'insémination intraconjugale, d'insémination avec donneur. On peut faire des fécondations in vitro, le cas le plus fréquent, spermatozoïde du conjoint, ovocyte de la conjointe, mais aussi des fécondations in vitro avec les ovocytes de la conjointe et les spermatozoïdes du donneur dans le cadre de la FIV donneur. Également, on peut faire une fécondation in vitro avec des ovocytes de la donneuse dans le cas de stérilité féminine, avec des spermatozoïdes du conjoint, ça s'appelle le don d'ovocytes. Et depuis le 2 août 2021, il est possible de faire du double don, c'est-à-dire dans les doubles stérilités masculines et féminines. Jusqu'à présent, on ne devait faire que de l'accueil d'embryons. Maintenant, on peut faire du double don. Bien, et la troisième partie, la préservation de la fertilité, qui consiste à conserver les gamètes et les tissus, je vous les aborderai en fin de présentation pour aborder la troisième modification de la loi qui impacte donc ce secteur. Juste ce schéma qui vous montre qu'en France, les enfants issus d'AMP sont majoritairement issus de transferts d'embryons congelés, ensuite de fécondation in vitro ICSI, ensuite d'insémination intra-utérine et ensuite de fécondation in vitro classique sans micro-injection. Alors voici la loi. La loi n'est plus, sur l'assistance médicale à la procréation, n'est plus destinée à remédier à l'infertilité d'un couple. Elle est ou la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, elle est destinée à répondre à un projet parental. Alors, la notion de projet parental n'est pas une définition juridique, mais dans ce contexte, on peut supposer que c'est le désir de devenir parent. Tous les couples formés d'un homme et d'une femme, de deux femmes, ou toute femme non mariée, cette terminologie a été adoptée par nos législateurs. En effet, comme vous le savez, c'est le mari qui est désigné comme le père. Le mariage, les noces, désignent le père de l'enfant en France. Donc, ce qui ne va pas avec l'instance médicale à procréation avec tiers donneur. Donc, c'est pour ça que seules les femmes non mariées peuvent avoir recours à un tiers donneur. Cet accès, il est bien spécifié, ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Ceci a été bien spécifié pour éviter l'éventuel, peut-être, souhait de quelques équipes de privilégier telle ou telle prise en charge. Donc ça, ce n'est bien pas possible. Et nous avons mis en place tous un registre d'inscription de ces demandes. Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à tout acte d'AMP. Alors, ce que j'ai marqué en orange dans le texte était déjà dans les précédentes versions de la loi. Ce que j'ai marqué en violet est nouveau. Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou à toute AMP le décès d'un des membres du couple. Alors, l'AMP post-mortem n'est pas autorisée en France. Une femme ne peut pas demander de faire une instance médicale à procréation avec des spermatozoïdes de son conjoint qui aurait congelé avant de décéder. Ce n'est pas possible. Un couple de femmes qui aurait des embryons ne peut pas demander à se les faire transférer si la conjointe décède. Fait obstacle à l'AMP, la cessation de la communauté de vie. Tout ceci pour dire que nous devons vérifier que le couple a une communauté de vie. C'est-à-dire que nous devons vérifier qu'il justifie d'une domiciliation commune. Je vous ai dit qu'il est possible de faire du don de spermatozoïdes et du don d'ovocytes. Il n'est pas possible de refaire une tentative de FIV s'il persiste, s'il reste des embryons congelés. Et enfin, juste pour votre information, il n'est pas seul l'Agence de la biomédecine autorise le passage transfrontalier des gamètes ou des embryons, à condition que les deux pays, le receveur, celui qui va recevoir et celui d'où viennent les gamètes, il faut qu'ils aient les mêmes législations, les mêmes principes éthiques. Ça veut dire qu'un couple ne peut pas faire transférer ses embryons dans un pays qui ferait de la gestation pour autrui. Alors, la mise en œuvre de l'AMP doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire. Et il nous est possible également, c'est prévu par la loi, que nous fassions appel au service social. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander une enquête du service social si on trouve que les conditions d'accueil de l'enfant ne sont pas réunies. Il faut vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée et il faut procéder à une évaluation médicale. Les couples de femmes que nous recevons depuis un petit moment ne comprennent pas pourquoi la dame qui ne porte pas l'enfant bénéficie d'examens médicaux. Eh bien oui, il faut procéder à une évaluation médicale. Il faut les informer sur les possibilités de réussite, les échecs de tentatives, les effets secondaires, les risques à court et long terme, la pénibilité, les contraintes. Donc tout ça, c'est marqué depuis longtemps. Et également, c'est bien marqué qu'il n'est pas possible de faire un transfert des embryons en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres. Alors, cet article était présent dès les années 94, première version de la loi, et apparaît à chaque révision de la loi. C'est-à-dire qu'on nous demande, il est possible de ne pas mettre en œuvre une AMP pour un couple ou une femme non mariée si au sein de l'équipe, un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire au demandeur dans l'intérêt de l'enfant à naître. Ça veut dire qu'on nous demande de réfléchir à l'intérêt de l'enfant à naître et qu'il est possible pour nous de ne pas faire une AMP si on estime que cet intérêt n'est pas respecté. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on évalue l'intérêt de l'enfant à naître ? C'est une question très difficile que nous avons souhaité au sein de notre centre d'exporter. Et nous avons depuis une quinzaine d'années un petit comité d'éthique formé pas uniquement que de professionnels de l'AMP. D'ailleurs, on regroupe les professionnels du CHU et les professionnels aussi du centre privé d'AMP qui interviennent dans ce groupe, mais aussi des représentants de l'UDAF, l'Union des familles, d'éthiciens, de personnes qui interviennent dans la protection de l'enfance. Enfin, on essaie d'avoir une réflexion multidisciplinaire parce que cette question est particulièrement difficile. Il est très difficile de refuser une AMP. C'est très compliqué. Les motifs de report ou de refus d'une AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande. Alors, dans le cas de recours à un tiers donneur, ovocyte, spermatozoïde, embryon, provenant d'un tiers, il faut que le couple passe déposer chez le notaire son consentement. Et dans le cadre des couples de femmes, il faut faire établir la déclaration conjointe anticipée pour protéger, quelque part, la femme qui ne porte pas l'enfant. Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une AMP sont fixées par décret en Conseil d'État et les conditions d'âge doivent prendre en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. Deuxième fois que cet intérêt de l'enfant à naître, cette notion apparaît dans la loi. Alors, que nous dit le décret du 28 septembre 2021 ? Eh bien, qu'on ne peut réaliser un prélèvement d'ovocytes chez une femme, bien sûr, que jusqu'à son 43e anniversaire. Par contre, on peut faire une insémination artificielle, on peut utiliser des gamètes congelées, du tissu germinal congelé, d'un transfert d'embryon jusqu'au 45e anniversaire de la femme qui a vocation à porter à l'enfant. Donc, vous allez voir que cette limite de passer à 45 ans fait augmenter la demande. Je vais vous montrer pourquoi. Par contre, pour l'homme, la limite est fixée à 60 ans pour l'utilisation de ses spermatozoïdes. Et également, pour un couple de femmes, la femme qui ne porte pas l'enfant doit avoir maximum 60 ans. Elle aussi. Donc, je vais vous montrer comment, finalement, l'élargissement du recours au tiers donneur, ainsi que cet âge repoussé à 45 ans, fait exploser un petit peu les limites, fait exploser un petit peu les demandes d'AMP avec tiers donneur. Eh bien, dans le cadre du don de spermatozoïdes, c'est donc du fait des couples de femmes et des femmes non mariées, et du recul à 45 ans pour bénéficier d'une insémination. Et pour un don d'ovocytes, vous allez voir que l'efficacité de l'AMP est pratiquement nulle après 43 ans. Et donc, entre 43 et 45 ans, il faudrait presque aussi associer un don d'ovocytes pour toutes ces dames. Alors, voici une courbe qui montre la différence de chronobiologie en matière de procréation entre l'homme et la femme. Alors, bien sûr, voici la baisse de la fécondité naturelle chez la femme avec l'âge. Une femme et un homme qui n'ont pas de problème n'ont que 25% de chances de concevoir par cycle à 25 ans. L'espèce humaine est une mauvaise espèce reproductrice. À 38 ans, 12% de chances de conception par cycle. Naturel, hein? À 40 ans, 6% de chances de naturel de conception. Et vous voyez que parallèlement augmente avec l'âge le pourcentage de fausses couches. Donc non seulement les chances de grossesse sont faibles, mais en plus les risques de fausses couches sont très élevés avec l'âge et augmentent drastiquement avec l'âge. Voici ce qu'il est donné de notre société qui montre que les femmes font leurs enfants de plus en plus tard. Voici les dernières notions de l'INSEE qui montrent que en 94, l'âge moyen de la mère à l'accouchement était de 28,8 ans et qu'en 2021, il est passé à 30,9 ans. Et on voit que cette courbe est ascendante et je pense qu'elle ne va pas être freinée. Alors, voici ce qu'on peut offrir comme taux de succès en fécondation in vitro en intraconjugal. Je ne parle pas du donneur. Ce sont les données de l'Agence de la biomédecine qui montrent qu'à partir de 40 ans, les taux d'accouchement, que ce soit en ICSI ou hors ICSI, peu importe, sont de l'ordre de 7 en moyenne, 7%. Donc, une femme qui a entre 40 et 42 ans qui vient faire une fécondation in vitro n'a que 7% de chance de d'accoucher. Après 43 ans, on est entre 2 et 3%. Vous comprenez pourquoi l'Union des caisses d'assurance maladie arrête jusqu'à présent de rembourser les FIV après 43 ans. Voici les taux d'efficacité avec insémination donc, de donneurs. Donc, on est bien passé dans le don et on est en taux de succès par insémination avec donneur. Et voici les données de l'équipe belge qui montrent que là aussi, il y a un effet âge. Moins de 36 ans, eh bien, les chances de succès d'accouchement sont de 15,7% avant 36 ans par cycle. Et que après entre 40 et 43 ans, ils ne sont que de 5%. Et après 43 ans, 0,4%. Voici les données de l'équipe en Angleterre, qui, sur une étude de 13 ans, une étude rétrospective de 13 ans, 8900 couples, cycles, 3300 femmes, dont la moitié à peu près de femmes seules, la moitié en couple homosexuel et 12% en couple hétérosexuel. Donc on voit que avant 35 ans, ce sont surtout des femmes en couple qui viennent demander une insémination. Et à partir de l'âge, ce sont plutôt des majorités de femmes qu'ils appellent seules. Nous, on aurait dit non mariées. J'ai repris leur terminologie. Voici l'efficacité en termes de taux cumulatif de naissance. Ça veut dire que, en fonction de l'âge, pour les femmes de moins de 35 ans, au-delà de 6 inséminations, les taux ne bougent pas. Ça veut dire que vous avez à peu près 30% de chances d'avoir un enfant au bout de 6 inséminations. Et les taux montent au fur et à mesure pour obtenir un plateau à 6 inséminations. Pour une femme entre 40 et 42 ans, le maximum d'efficacité est atteint entre 3 et 4 inséminations et il ne dépasse pas 10%. Ça, c'est la différence d'efficacité pour un couple de femmes et d'une femme seule. Et pour les femmes seules, ça marche moins bien que les couples de femmes, quel que soit l'âge. D'où il recommande de ne faire maximum 6 cycles avant 40 ans, 3 cycles entre 40 et 42 ans et d'arrêter la prise en charge à 43 ans en insémination avec donneur. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du sécos de Bordeaux? Eh bien, voici en vert, ne regardez que les colonnes en vert, les demandes de recours pour don de spermatozoïdes. Pendant, jusqu'à la promulgation de la loi, nous avions 10 à 15 demandes par mois de recours d'insémination avec don de spermatozoïdes. Et à partir de la promulgation de la loi et de la mise en place, les demandes, nous tournons aux alentours de 100 demandes par mois. Et ça se maintient, puisque nos rendez-vous jusqu'en juin 2022 sont complets. Donc la demande ne baisse pas. Au niveau national, il y a un comité de surveillance de la mise en place au niveau national des dispositions de la loi de bioéthique du 2 août. Et en 2021, 6800 demandes de première consultation en France, 53% de couple de femmes, 47% de femmes de couple de femmes, 53% de femmes non mariées. 2300 consultations ont été réalisées en 2021. Il y a eu déjà 6 prises en charge qui ont été avec une grossesse qui est en cours. En 2021, il y a eu donc 6768 demandes de consultation. Et je vous rappelle que le ministère avait évalué à 3500 demandes par an. Donc, ne serait-ce qu'en 3 mois, on a doublé le chiffre de demandes présumé, évalué par le ministère sur une année. Alors, de ce fait, nous aurons besoin vraiment de tiers donneurs. Alors, je vous montre le constat en France en 2019. 317 donneurs ont donné sur tout le territoire français. 317 donneurs. Il y avait... Et au cours de cette année, 2017 couples avaient fait la demande. Dans d'ovocytes, 836 donneuses ont été ponctionnées sur tout le territoire français en 2019. Et au 31 décembre, 4000 couples à peu près étaient en attente d'un don d'ovocytes. Bien, alors ce tiers donneur. Voici les grands principes du don en France qui sont inscrits dans le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, c'est les lois de bioéthique, mais aussi dans le Code civil. Alors, la première loi de bioéthique a été promulguée le 29 juillet 1994. Elle porte le numéro 94-654. Alors, le titre était très long, il a été simplifié en bioéthique ensuite. Elle a été révisée en 1994, 2004, 2011, 2021. Pardon. Et regardez, la précédente, la loi qui a juste précédé cette loi, cette première loi de bioéthique, a été promulguée dans le Code civil. Elle avait juste le numéro antérieur. Relative au respect du corps humain. Et c'est cette loi qui n'a pas été modifiée, sauf par un article que je vais vous citer, qui définit les principes de l'éthique en France. Donc je vous incite à la lire, et je ne l'ai pas remise parce que je n'aurai pas assez de temps, mais en tout cas, le principe d'anonymat, de gratuité et de volontariat est inscrit dans ce code civil. La gratuité. Les personnes qui participent à des recherches, ce qui nous intéresse, c'est des éléments qui donnent leurs éléments ou produits de leur corps, doivent être bénévoles. Aucune convention ne peut être établie pour la procréation ou la gestation pour autrui, c'est inscrit dans le Code civil. Aucun paiement, quelle que soit la forme, ne peut être allouée à celui qui se prête au prélèvement d'un élément de son corps ou à la collecte de ses produits. Mais par contre, on se doit d'assurer une neutralité financière. Donc, autrement dit, tous les examens du donneur ou de la donneuse sont pris en charge. La donneuse qui est indemnisée pour ses journées de travail perdues, avec un maximum, frais de garde d'enfants. Enfin, tout est mis en place pour que la donneuse ait une neutralité financière, qu'elle n'ait rien à payer du fait de son don. Et heureusement, l'employeur ne peut absolument pas s'opposer à une absence de son employé dans le cadre d'un don d'ovocyte. Le volontariat soumis à consentement, il faut que les donneurs, alors je dis donneurs, donneuses, hein, j'englobe tout le monde, donnent leur consentement au don. Ce qui implique la conservation, leur donner aux informations relatives à leur santé, et vous verrez aussi à leurs données identifiantes, vous verrez le nombre d'années que cela implique. Alors, à compter du 1er septembre 2022, les donneurs devront autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité aux enfants issus de leurs dons. Si le donneur refuse, il ne peut pas être donneur. À partir du 1er septembre 2022. Dans cette loi, il faut savoir que, alors en 2011, je vous ai rappelé qu'en 2011, le donneur n'avait plus besoin de procréer pour être donneur. Ça, c'était daté de 2011. Et il faut toujours que le donneur soit majeur. Et ils ont rajouté dans cette version qu'il faut que l'interdiction pour les mineurs émancipés d'être donneurs. Ça a été. Les mineurs émancipés ne peuvent plus être donneurs. Alors, suppression du recueil du consentement du conjoint lors d'un don de gamètes. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'éthique du don en France. En 1994, il fallait que le donneur soit en couple et ait un enfant pour pouvoir donner. Il fallait l'accord du conjoint et de la conjointe. Et donc, en fait, c'était essentiellement des donneurs relationnels, une sorte de chaîne de solidarité entre les couples infertiles et les couples fertiles. Et c'était souvent des donneurs avant vasectomie ou des contre-dons qui s'effectuaient. Ensuite, en 2004, ça n'a pas bougé. On est passé de 5 à 10 enfants nés par donneur. En 2011, alors, la loi a autorisé les donneurs sans enfants à donner. Mais par contre, ils nous ont mis l'obligation de leur proposer une autoconservation, ce qui a un petit peu mis un frein à cette disposition qui était favorable aux dons, et puisqu'en fait, on a vu apparaître surtout des femmes qui venaient donner pour en fait pouvoir autoconserver pour elles-mêmes. Donc finalement, ça ne nous a pas servi à grand-chose. De ce fait, en 2021, eh bien, il faut être majeur. Il faut satisfaire à des conditions d'âge, mais en tout cas, ce sont les campagnes de communication qui permettent le recrutement des donneurs, et ce sont essentiellement des démarches individuelles. L'anonymat. Alors, s'il vous plaît, le don est toujours anonyme. L'anonymat, c'est que le tiers donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Mais ils auraient dû rajouter au moment du don, d'accord. Donc, si on vous dit l'anonymat élevé, non, l'anonymat est toujours valable, est toujours la loi, mais on devrait dire au moment du don. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est marqué dans le code de la santé publique, mais c'est marqué aussi dans le code civil. Interdiction de divulguer toute information. Motion permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don et celui qui l'a reçu. Et ils ont été obligés de rajouter un article au Code civil pour bien préciser cette question d'anonymat. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une AMP avec tiers donneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur. Bon, je suis d'accord, c'est une pirouette, puisque l'enfant à ses 18 ans pourra connaître l'identité du donneur et les receveurs connaîtront l'identité du receveur. Donc on est bien d'accord, c'est au moment du don. Donc il ne faut pas parler de lever de l'anonymat. Alors, à partir du 1er septembre 2022, va se créer en France le registre national des dons, tenu par l'Agence de la biomédecine. Donc nous allons devoir donner à ce registre toutes les informations demandées sur le tiers donneur, sur les enfants issus du don, c'est-à-dire les identités, enfin, tous les éléments identifiants des donneurs, des enfants issus du don, l'identité des personnes ou des couples receveurs. Tout sera dans le grand registre national tenu par l'Agence de la biomédecine. Alors, pour le tiers donneur, on va lui demander, donc, les données non identifiantes qui seront dans le registre seront l'âge, au moment du don, son état général, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale, professionnelle, son pays de naissance, bon, les motivations du don rédigées par leurs soins. Alors, autant dire qu'on va faire attention à ce qui est rédigé, parce que la première motivation des enfants issus d'un don pour connaître l'identité du donneur, c'est quelle a été la motivation du donneur. Et donc, cette lettre est primordiale pour les enfants. Donc, bon, je ne dis pas qu'il va y avoir des bêtises, mais quand même, va falloir jeter un petit coup d'œil. Bon, parce que c'est important pour les enfants, d'accord ? Leur identité, bien sûr. Et il faudra que le registre soit opérationnel, qui conserve toutes ces données pendant 120 ans. On a de quoi venir. Alors, comment sont recrutés les donneurs en France ? Alors, il faut savoir que la publicité sur le don est interdite, d'accord ? Au profit d'une personne, au profit d'une structure, bon, je ne peux pas aller Place de la Victoire en venant donner aux Sécos de Bordeaux, ce n'est pas possible, bon, ça m'arrange un peu aussi, mais c'est sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine qui fait de l'information, des campagnes de communication. Alors, il y a eu une campagne de communication entre le 21 octobre et le 17 décembre, alors qui a été, s'il m'écoute, relativement efficace. Jusqu'après, c'est bien. Je veux dire qu'on est content que ça ait marché, parce que c'est pas toujours le cas dans les années précédentes. En tout cas, il y a une diffusion large par les réseaux sociaux, les influenceurs, dans les films, des salles de cinéma. Et du fait, ben, il y a eu pas mal d'honneurs qui se sont présentés, 501 donneurs, et près de 900 femmes ont donné leurs ovocytes en 2021. Donc on a vu qu'en effet, on ne peut pas dire que la population française n'est pas altruiste. Je pense que s'ils ne donnent pas, c'est qu'ils ne sont pas au courant que ce soit possible. D'où l'importance de ces campagnes de communication et d'information. Et non pas de la rémunération. Bon, ça, on pourra en discuter. Alors, voici, ça c'est la carte de distribution des Sécos en France. Il y a 26 Sécos en France qui organisent le don de spermatozoïdes notamment. Premier Sécos parisien, créé en 1974. Bon, et vous voyez que Bordeaux, ben, il est un petit peu seul. Hein, dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes les seuls à pouvoir assurer cette mission. Nous avons donc une mission régionale en matière de don de gamètes et don d'embryons aussi d'ailleurs. Bon, alors c'est une équipe pluridisciplinaire, je ne reviendrai pas. Nous avons pour mission d'organiser le tiers donneur et aussi de préserver la fertilité. C'est pour ça que la dernière partie de mon exposé nous touche aussi de plein fouet. Alors, quels sont les critères d'acceptabilité des tiers donneurs ? Eh bien, il faut être majeur, moins de 45 ans pour l'homme, moins de 37 ans pour la femme, il faut être en bonne santé. On les reçoit en consultation médicale, on vérifie que les caractéristiques spermatiques soient correctes, on fait un bilan gynéco pour les femmes, et surtout on évalue leur fonction ovarienne pour savoir combien d'ovocytes on peut espérer. L'entretien psychologique est recommandé. On évalue le risque de transmission à l'enfant d'une anomalie génétique par l'établissement de l'arbre généalogique. Donc, c'est la recherche des antécédents personnels et familiaux à l'interrogatoire. Le fait que les donneurs en France ne soient pas rémunérés garantit l'honnêteté des réponses. Les pays qui payent leurs donneurs sont obligés de faire un peu plus de screening génétique. Et on établit le karyotype, c'est-à-dire l'analyse de leurs chromosomes, parce qu'on peut être porteur tous d'une anomalie chromosomique équilibrée qui se transmet chez l'enfant forcément de façon déséquilibrée. Et là, la responsabilité, entre guillemets, de la génétique du donneur est directement engagée. Mais on ne recherche pas toutes les maladies dites hétérozygotes dont il faut que l'homme et la femme soient porteurs sains pour qu'il y ait un risque d'expression chez l'enfant de la maladie. L'exemple typique, c'est la mucoviscidose. On ne recherche pas ce type de maladie chez les donneurs ou les donneuses. Alors, bien sûr, on évalue le risque de transmission virale par des sérologies, je passe, peu importe. Quel est le parcours de la donneuse ? Alors, il faut qu'elle contacte le SECOS de Bordeaux. Bon, je ne fais pas de la publicité, je fais de l'information. 2 à 3 venues avant le don. Ils sont reçus par le médecin du SECOS. Nous sommes 2 à consulter. Le bilan, l'information, le recueil de consentement. On les informe de toutes les complications éventuelles, les effets du traitement, les effets de la ponction, la notion de consentement, la notion de levée d'identité. Ensuite, elles viennent pour voir le médecin clinicien qui va donner le traitement, la psychologue, l'anesthésiste pour la ponction. Et après, le dossier passe en commission. Il y a une validation pluridisciplinaire. Et ensuite, on leur remet le traitement. Et elles viennent pour la ponction qui se fait au CHU de Bordeaux en ambulatoire. Une donneuse peut donner maximum 2 fois, 2 ponctions par donneuse. Pour un donneur, eh bien, toujours pareil, il contacte le SECOS par cet email. Et lui, il a 5 à 6 venues parce que 5 à 6 recueils. D'accord ? Il a une consultation médicale, prescription de bilan, plus ou moins un entretien psychologique à sa demande et 5 à 6 recueils pour, d'accord, pour constituer les paillettes de spermatozoïdes. Les receveurs. Eh bien, il faut contacter le SECOS de Bordeaux, toujours la même adresse. Ils seront reçus pour une première consultation médicale. C'est là où on attribue un numéro d'inscription sur un registre. Nous avons un registre, l'inscription en don de spermatozoïdes, un registre d'inscription pour le don d'ovocytes, un registre d'inscription pour un accueil d'embryon. Donc, les registres, le numéro d'inscription est délivré au fur et à mesure de leur de la consultation médicale. Ils ont donc, conformément à la loi, un bilan médical pour chaque membre du couple, pour la femme non mariée. On leur prescrit les examens complémentaires nécessaires, on leur dit les informations. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à délivrer. Ils voient ensuite la psychologue dans le cadre d'un accompagnement. On discute leur dossier en pluridisciplinaire. Ils ont un accord qui leur est envoyé par écrit. Ils passent devant le notaire pour le consentement tiers donneur et pour les couples de femmes, la déclaration conjointe anticipée. Et ensuite, c'est la consultation de prise en charge. Et nous délivrons les paillettes pour tous les centres clinico-biologiques de la région. C'est-à-dire que les patients ne sont pas captifs du CHU. On envoie les paillettes dans tous les 5 centres clinico-biologique privé du territoire Aix-Aquitaine, pour le CHU de Limoges, pour le CHU de Poitiers et pour le centre d'AMP de La Rochelle. Voilà, donc on délivre à tous les centres de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous allez me demander les délais d'attente. Nous n'imposons pas de délais d'attente en dehors des délais de consultation qui s'allongent malheureusement devant l'importance des demandes et le manque de ressources pour les effectuer. Mais en moyenne, je dirais 6 mois, entre 6 mois et 1 an, quoi. Tant qu'on a des spermatozoïdes. Les enfants du don. tant qu'on a, c'est-à-dire tant que nous pouvons utiliser les donneurs, la banque constituée sous l'ancien régime. Bon, vous allez vous comprendre. Alors, les enfants du don, eh bien, c'est important. Cette loi permet à que tous les enfants issus d'un don puissent accéder à l'identité du donneur ou de la donneuse, hein, je braille, à ses 18 ans, s'il fait la demande à une commission spécifique créée par l'Agence de la biomédecine. À ses 18 ans, tous les enfants issus d'un don, même les 70 000 enfants qui sont nés par don, depuis que le don est fait en France, pourront accéder à cette commission créée, mise en place le 1er septembre 2022. La grande différence, c'est que tous les enfants qui sont conçus avec des donneurs dits anciens régimes pourront contacter donc cette commission qui fera l'enquête, qui reviendra vers le SECOS. Nous demanderons les coordonnées dont on dispose, interrogera le donneur et le donneur aura le choix de dire non. Le choix appartiendra au donneur. Tous les donneurs recrutés à partir du 1er septembre 2022 devront communiquer leur identité, donc les enfants auront accès à l'identité du donneur. Alors, cette commission d'accès aux données, bon, ben, elle a déjà passé toutes les barrières hein, du répertoire national d'identification des personnes physiques, du répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie, de la CNIL, enfin tout ça c'est bien cadré, a priori. Et voici un petit peu la fresque là, que j'ai représentée pour bien faire comprendre. Donc le 1er septembre 2022, c'est la création du registre, donc le top départ pour recruter les nouveaux donneurs. À une date fixée par décret que nous ne connaissons pas, nous devrons détruire le stock de donneurs anciens régimes pour ne disposer que de donneurs nouveaux régimes. D'accord ? Et donc, je ne sais pas. Donc, c'est là où la difficulté va se présenter quand on aura plus que du stock nouveau régime qu'il va falloir reconstituer. Une banque de dons de sperme, ça ne se fait pas en quelques mois. Pour avoir le choix sur les caractéristiques, sur les phénotypes, c'est pas en quelques mois qu'on va tout reconstituer. Alors, il est prévu dans la loi que le 2 août 2024, un rapport du gouvernement au Parlement doit présenter l'état des stocks des gamètes en France. Donc, je suspecte, mais je ne suis pas du tout dans les confidences, que cette date fixée par décret intervienne après le rapport. Ça serait, à mon sens, plus judicieux de faire passer ce décret après qu'ils aient eu l'état des stocks. Bon, mais bon, pour le moment, je ne sais pas. Troisième élément interpellé par les révisions de la loi de bioéthique, c'est la conservation des gamètes. Bon, vous savez pas qu'on peut conserver des ovocytes pour une dame, on peut conserver des spermatozoïdes pour un monsieur, spermatozoïdes émis hein, lors d'une éjaculation, ou spermatozoïdes que l'on va rechercher dans le testicule par chirurgie. Et on peut aussi conserver du tissu ovarien. Dans des cas très particuliers, on sait les congeler. C'est le cadre qui avait été défini depuis longtemps, qui était la notion de préservation de fertilité, c'est-à-dire que on conserve les ovocytes, les spermatozoïdes, les tissus germinaux de patients qui vont avoir des traitements altérant leur fertilité, je pense aux chimiothérapies, mais aussi aux chirurgies, enlever un ovaire, enlever une tumeur ovarienne, qui ampute le capital ovocytaire, et aussi pour maladies qui font que la réserve est prématurément altérée, trop prématurément altérée. Donc, tout ceci, on le fait hein, dans le cadre de la préservation de fertilité médicale, on le fait chez les enfants, chez l'adolescent, chez l'adulte, en âge de procréer, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 60 ans pour l'homme et 38-40 ans pour la femme en oncologie et aussi pour les pathologies bénignes, notamment chez la femme, l'endométriose. Ça fait un petit moment qu'on congèle des ovocytes pour des femmes qui ont des endométrioses et une altération de la réserve ovarienne. Bien, alors, et la grande nouveauté, c'est que maintenant, on peut préserver aussi sa fertilité, on peut congeler, je crois que le terme est plus judicieux, on peut congeler ses gamètes, ses ovocytes, ses spermatozoïdes, en dehors de toute indication médicale, à condition de satisfaire à des conditions d'âge qui ont été fixées aussi par un décret en Conseil d'État qui dit qu'une femme peut congeler ses ovocytes pour raison non médicale à partir de 29 ans et avant 37 ans. Pour les hommes, à partir de 29 ans et avant 45 ans. Et de manière à les utiliser pour une femme avant 45e anniversaire et pour les hommes avant son 60e anniversaire. Donc voici les demandes nouvelles de congélation d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Alors, juste pour vous dire que chaque année, nous sommes tenus d'interroger ces patients pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur gamète. Et chaque année, il faut qu'ils nous renvoient un avenant, etc. Donc, il y a une relation de contrat qui est étroite avec le SECOS. Et dans le cadre de la préservation non médicale, eh bien, les frais de recueil, les frais pour une ponction d'une femme, les frais de congélation sont pris en charge par l'assurance maladie. La seule différence avec la conservation pour raison médicale, c'est que la conservation annuelle n'est pas prise en charge, est à la charge du patient et de l'ordre de 40 euros par an. Bon. On est loin des 500 euros qui sont en vigueur aux États-Unis ou je crois même en Espagne. Alors, voilà. Mais pour nuancer un petit peu l'efficacité de ce qu'on fait, voici, alors ça c'est une étude qui est intéressante, publiée en 2017, sur l'efficacité de ces ovocytes congelés. Alors, vous voyez que la probabilité d'avoir au moins un enfant, d'accord, pour une femme, allez, de moins de 35 ans, d'accord, de moins de 35 ans, mais montre que pour atteindre, allez, 60% de chances de probabilité d'avoir un enfant, ben, il faudrait 40... Alors, attendez. Non, désolé. C'est la courbe du haut. Voilà, c'est ici. Voilà. Ça n'allait pas du tout. Alors, il faut avoir 20 ovocytes. Donc, une femme de moins de 35 ans doit avoir conservé 20 ovocytes pour avoir une probabilité de 90% de faire un enfant avec. Et plus vous avancez en âge, c'est-à-dire que plus vous descendez dans ces courbes, vous voyez qu'à 37 ans, alors c'est la courbe en vert, eh bien, déjà, pour atteindre les mêmes taux de succès, il faut 40 ovocytes. Voyez. Et donc, à 37 ans, le recueil moyen d'ovocytes par ponction est nettement inférieur que pour une femme de moins de 35 ans. D'accord. Donc, c'est vrai que... Et ça, c'est une étude espagnole qui a le mérite d'avoir été réalisée à partir d'ovocytes congelé pour raison non médicale. Alors, il n'y avait pas que du sociétal, il y avait aussi des maladies bénignes, mais qui montrent alors le taux cumulatif de naissance vivante, c'est ça le taux le plus important, il faut raisonner en taux de naissance vivante, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un enfant vivant avec l'utilisation de ces ovocytes congelés. Eh bien, à moins de 35 ans, avec 8 ovocytes, vous avez 40% de chances d'avoir un enfant. À 10 ovocytes, vous avez 60%. Autrement dit, on dit aux dames d'évaluer à 5-6% de chances d'avoir un enfant par ovocyte avant 35 ans. Et par contre, après 36 ans, c'est 2-3% de chances d'avoir un enfant par ovocyte. Et c'est malheureusement chez les plus de 36 ans qu'on a le moins d'ovocytes lorsqu'on fait des stimulations et des ponctions ovocytaires. Alors, pour au CHU de Bordeaux, eh bien, entre le 1er janvier et le 29 mars 2022, nous avons eu 53 demandes de conservation d'ovocytes pour raisons non médicales. Et ça représente déjà 36% des demandes. Et ça ne fait qu'augmenter. Voici le mail auquel il faut s'adresser. Et au niveau national, mais toujours pareil, le comité de suivi de la mise en œuvre de la loi de bioéthique fait état en 2021 de 1400 demandes et de 374 consultations déjà réalisées. Alors, les hommes aussi nous demandent de conserver leur spermatozoïde en dehors d'une raison médicale. Alors, pour les femmes, on comprend, vous l'avez vu, l'efficacité, la fécondabilité naturelle diminue avec l'âge. Donc une femme qui a 35 ans, 36 ans, qui n'a pas peut-être encore trouvé de partenaire pour construire son projet parental, eh bien, va s'inquiéter et viendra congeler ses ovocytes. D'accord ? Un homme, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on a des hommes qui viennent demander une préservation non médicale de conservation de spermatozoïdes. On en a moins, mais on en a. En conclusion, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu trois changements majeurs dans cette révision. On a mis en place de nouveaux parcours de prise en charge, que le nombre de demandes est bien supérieur à toutes les prédictions. Et je crois qu'il est important d'informer sur ces possibilités, ces nouveaux parcours, et aussi des limites médicales, d'efficacité de ces techniques mises en œuvre. Je vous remercie.